Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Et cette semaine, il y a 12 nouveautés sur les écrans Manceaux. Alors, Les Animaux Fantastiques 3, La Revanche des Crevettes Pailletées, Allons Enfants, Le Dernier Piano, À l'ombre des filles, Les Gagnants, Le Stade, Toute une nuit sans savoir, Vortex, Akira, Sous l'aile des anges, et même si on a le temps, on parlera éventuellement de Max et Amy Mission Pâques, dessin animé. Voilà, alors pour la programmation musicale, eh bien on va commencer par un vieux classique, Jeanne Moreau, India Song, un titre que l'on entend dans le film À l'ombre des filles, et là que vous allez écouter certainement pour la première fois sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, India Song, Jeanne Moreau, un titre que l'on entend dans À l'ombre des filles. Song, Jeanne Moreau, et bien oui, c'est un titre que l'on entend dans le film À l'ombre des filles, et c'était extrait de la musique du film de Marguerite Duras qui s'appelait India Song. Allez, notre semaine cinématographique, on la commence avec Les Animaux Fantastiques 3, Le Secret de Dumbledore. Le film est proposé au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Au Pathé Quinconce, il y a de la VO, il doit y en avoir au Colisée, je vérifierai, mais je pense qu'il y en a aussi au moins une séance en VO. Le film dure 2h22, il est de David Yates. David Yates, c'est un réalisateur, scénariste, producteur britannique d'1963, À son actif, de nombreux courts-métrages, des films inédits en France, des épisodes de séries télé, et puis en 2004, un premier long-métrage distribué sous nos latitudes, Sex Traffic, 2005, rencontre au sommet inédit, et puis ensuite, eh bien, c'est Harry Potter, parce que c'est le réalisateur d'Harry Potter, David Yates. Pas de tous les Harry Potter, mais de beaucoup. Alors, 2007, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. 2009, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. 2010, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. 2011, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Et puis ensuite, petite pause pour Harry Potter. 2016, Tarzan, avec Alexander Sarsgaard et Margot Robbie. 2016, c'est le début des Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, 2016-2018, les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Et puis donc, ces Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux anciens et nouveaux et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l'ombre ? C'est, semble-t-il, l'enjeu du film. Une revue de presse très partagée pour ce film, la rédaction du Parisien. Plein de suspense et de révélations, le film regorge de scènes d'action fantastiques, remarquablement servi par des comédiens en grande forme, une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux éblouissants. Élise Lépine dans Le Point, alternant scènes d'action, paysages sublimes, blagues désopilantes et séquences émotions. Ces animaux fantastiques offrent un grand moment de féerie. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche. Le scénario se perd un peu dans ses méandres, mais on est emporté par l'univers merveilleux imaginé par J.K. Rowling et par le romantisme tragique du couple gay qui se déchire, formé par Jude Law et Mads Mikkelsen. Guillemette Odissino, Télérama, l'enchantement des premiers volets disparaît malgré une pincée de bonnes idées. Emmanuel Spadacenta, cinématiseur, un manque criant de dramaturgie pour un énième opus de transition. On n'en peut plus! Et toi, Antoine Desrues, écran large avec son casting sous l'exomile, sa narration confuse et ses péripéties amenées n'importe comment, les Animaux Fantastiques 3 condensent tous les travers du blockbuster moderne, chiant et grisâtre, qui n'a plus que son fanservice pour exister. Tragique pour nos amis des sorciers. Et enfin, Gaël Golen, dans West France, la magie n'opère plus à Poudlard, mais elle opère auprès des spectateurs, puisque c'est le meilleur démarrage pour un mercredi depuis le début de l'année 2022. Voilà, donc, pour ce film que nous n'avons pas vu.
Non.
Moi, j'avais vu les deux premiers et je m'étais assez ennuyé. J'ai pas retenté l'expérience pour un troisième. J'attendrai que ça passe à la télé. Ça sera bien suffisant. Mais de toute façon, ce genre de film n'a pas besoin qu'on ait un bouche-à-oreille favorable. Les gens y vont. Je dirais pas les yeux fermés, parce qu'aller au cinéma les yeux fermés, c'est quand même terrible. Mais ils y vont, de toute façon, en confiance. Et puis, comme ce sont les vacances de printemps qui ont débuté, ça fait évidemment les affaires des exploitants de cinéma, parce que ça, c'est un film qui va marcher, c'est sûr. La revanche des cruettes pailletées. Alors là, on peut déjà vous le dire, ça marche pas du tout. Hein. J'ai regardé les chiffres premier jour, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe, il y a pire. Hein. Mais ça fait que 19 000 entrées premier jour, alors que le premier avait fait 83 000 entrées. Bon, alors donc, La revanche des cruettes pailletées, c'est un film français proposé par le méga CGR et par le Pâté Quinconce. C'est un film réalisé par Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Cédric Le Gallo et Maxime Govard sont réalisateurs et scénaristes et même dialoguistes pour Maxime Govard et acteurs pour Cédric Le Gallo. Ils ont à leur actif, eh bien, en 2019, Les Crevettes Pailletées, le premier. Et puis, Maxime Govard avait réalisé auparavant, en 2014, Toute première fois, co-réalisé avec Noémie Saglio. Toute première fois, c'était avec Pio Marmaille. 2017, Daddy Cool, avec Vincent Elbaz et Laurence Arnay. Voilà, eh bien, ce qu'on va dire sur Les Crevettes Pailletées, c'est que ça dure 1h53.
Oui.
Oui, alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, Les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe. Nathalie Simon dans Le Figaro, bienveillant, luttant contre les préjugés, Maxime Govard et Cédric Le Gallo traite de thèmes identiques, d'identité et d'acceptation de l'autre. Quand les crevettes entonnent en chœur dans la main Heroes de David Bowie, un sentiment de solidarité l'emporte. Il faut attendre la fin du film pour ça.
Oui.
Barbara Théa, de Journal du Dimanche, des répliques toujours pleines d'humour, ainsi qu'un discours sur la tolérance et l'identité qui gagne en profondeur. François Léger dans Première. Mais même dans ses scènes les plus délirantes, la revanche des crevettes pailletées est toujours portée par une envie de mise en scène, de sens du cadre, de narration, bref, de cinéma. Pas donné à tout le monde dans le paysage actuel de la comédie française grand public. Mathias Merz dans Écran large, résolument plus grave et moins drôle que le premier opus, la revanche des crevettes pailletées peut toujours s'appuyer sur un casting solaire pour servir une large palette d'émotions et de séquences. Dommage que son écriture ne soit pas à la hauteur de son ambition. Xavier Lerper dans L'Obs, le rythme est inégal, mais la bienveillance militante règne et la mise en scène fait de beaux clins d'œil à Désenchanté de Mylène Farmer.
Ah, pardon,
peut-être, oui. Reste que l'humour aura du string et au second degré ultra gay n'aura pas la même saveur ni la même valeur selon qu'on est homo, friendly ou nullement concerné. Je confirme. Michel Besbach, Télérama. C'est plus intéressant, assez drôle, mais il reste deux écueils. Les brusques virages vers le drame sont mal négociés et surtout, il y a trop peu d'idées visuelles. Voilà pour ce que on peut dire des crevettes pailletées qu'on peut voir au méga CGR et au pâté quinconce. Nouvelle aventure donc qui font suite au premier épisode de ces fameuses crevettes pailletées où l'on retrouve donc cette équipe de waterpolo et cette fois-ci en route vers les Gay Games avec un nouveau poloiste. On dit poloiste pour ceux qui jouent au waterpolo.
Bah, je pense.
Oui, je vois pas ce qu'on pouvait dire. Nouveau poloiste qui s'appelle Céline et qui ignore au départ la spécificité de l'équipe. La spécificité, c'est savoir qu'elle est composée de personnages gays, homosexuels. Alors, cette équipe est obligée de faire escale en Russie lors de son vol vers Tokyo et là, il va y vivre bien des mésaventures. Nouvelle occasion donc pour les auteurs de parler d'homophobie, des agressions dont peuvent être victimes les homosexuels, de thérapie de conversion et puis aussi de la difficulté à assumer son homosexualité quand on est un jeune de banlieue, comme on dit. Sympathique, oui, on va dire que le film est sympathique, mais pas nouveau, alors pas nouveau du tout, et puis surtout beaucoup, beaucoup trop long. Mmh. Hein, 1h53 pour une comédie, c'est terrible.
Je suis d'accord.
On retrouve ce qui avait fait le succès du premier film, à savoir le casting où chacun des membres du team a ses particularités et certains petits secrets personnels pas encore révélés aux autres dans le premier épisode. Le film est donc le traditionnel, convenu, mais inattaquable plaidoyer en faveur de la tolérance, du droit à la différence, de l'acceptation de l'autre. Vous voyez, c'est toutes les tartes à la crème du cinéma actuel, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah oui, forcément, puisque c'est un deuxième épisode, plus du tout le goût de la nouveauté. C'est donc amusant, mais sans plus. La communauté gay appréciera sans doute ce film engagé pour sa cause. Les autres vont sûrement trouver cela bien longué et prévisible, mais bon, c'est un peu sympathique, quoi. Voilà. Alors, Pierre.
Eh ben moi aussi une comédie burlesque encore cette semaine, mais je dois avouer que j'ai beaucoup moins ri que la semaine dernière avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Je crois même que je n'ai pas ri du tout en fait. Ce film prend une dimension particulière dans le contexte actuel puisqu'il se déroule en grande partie en Russie et a été tourné en grande partie en Ukraine. Eh oui, Maxime Govard, l'un des deux réalisateurs, assume de signer une comédie politique sur fond d'homophobie, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Ce long métrage est plus fort que le premier, sans doute, associant l'humour au drame de la condition du monde gay dans des pays d'intolérance. Mais je reste quand même très mitigé dans l'appréciation de ce film, tu l'as dit, qui est un peu long. Hein.
Oui, qui a vraiment mal démarré, oui. Je vous dis... L'une des explications, c'est peut-être justement parce que le contexte ne lui est pas très favorable, un film qui se passe en Russie, censé se passer en Russie. Bon.
Ouais, voilà. Russie, Ukraine, oui.
Oui, bien. Allons enfants, c'est un documentaire réalisé par Thierry Demézière et Alban Turley. Thierry Demézière et Alban Turley, ce sont des documentaristes et on leur doit auparavant des documentaires sur, par exemple, Benjamin Millepied, qui était un documentaire très bien, et puis les autres, je ne les ai pas notés, donc je vais les retrouver d'ici un petit moment, hein, mais je ne les ai pas retrouvés. Alors, donc, 1h50 pour ce film proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec, en général, une séance par jour, et encore pas tous les jours, il n'y en a pas, par exemple, le mardi de séance pour ce film-là. Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou, intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l'échec scolaire grâce à la danse hip-hop. Allons enfants et l'histoire de cette expérience unique en France. La revue de presse Pauline Conradson dans Le Parisien parle d'un documentaire magnifique. Gilles Kerdreux dans Ouest France dit que c'est passionnant et enthousiasmant. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours parle d'un énorme coup de cœur. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, un portrait empli de bienveillance et d'humanisme. Au récit qui s'étire parfois, mais passionnant, dans sa retranscription de ce microcosme cosmopolite. Thierry Chaise en Première, Cet éloge de la mixité, doublé d'un hymne au corps enseignant, passe par les images, l'énergie, parfois violente, des échanges, et non par le commentaire, pour un résultat d'une puissance enveloppante. Pas vu. Tu dirais pas voir parce que je suis sûr que tu n'aimes pas trop la hip-hop comme musique. Hein, j'ai cru comprendre.
Ouais, puis documentaire, je suis pas fan non plus.
Moi non plus. Mais je dois dire que De Maizière et Turlys avaient fait un documentaire sur Lourdes, qui était pas mal du tout. Mm-hmm. Et donc ce documentaire sur Benjamin Millepied. Mais c'est pareil, toujours pareil. Moi, je pense que ça n'a pas un intérêt terrible d'aller voir ça au cinéma. Le voir à la télévision, c'est largement suffisant. Allons enfants. Bon, voilà. C'est Allons enfants, c'est au cinéaste. Le dernier piano, cette fois-ci, on part au Colisée pour ce film de Jimmy Kérouz, réalisateur scénariste libanais né en 1986, c'est son premier long métrage. 1h50 pour ce film dont le Colisée propose version française et version originale. Karim, un pianiste de talent, a l'opportunité unique de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s'enfuir de cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l'État islamique, Karim n'a plus qu'une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté. L'Obs, François Forestier, une ode à l'espoir malgré les nuages qui s'accumulent. Le Figaro, le pathos est aussi du voyage. La qualité de la distribution et l'efficacité du scénario l'atténuent heureusement et autorisent le spectateur à se laisser saisir par l'émotion. Stéphane Joby, le journal du dimanche, avec la complicité de mélodies prêtes à émouvoir de Gabriel Yared, le réalisateur libanais Jimmy Kérouz, charge toutefois sa barque de personnages parfois caricaturaux et de twists improbables. Véronique Coapé, Le Monde, le voyage du jeune héros, qui plus est fort séduisant, Tarek Yacoub, dans un pays en ruine que l'image rend esthétique. Le suspense plutôt bien mené du récit ont hélas pour fâcheux effet de donner à la tragédie syrienne bien réelle une dimension fictionnelle qui met mal à l'aise. Camille Nevers dans Libération, le film de Jimmy Kérouz appartient à ce genre de cinéma politico-pudding auquel se rangent les pathétiques essais d'un Sean Penn ou d'un Bernard-Henri Lévy, d'une Eva Husson ou d'une Caroline Fourest qui confondent coproduction internationale et internationalisme, faux films de guérilla armés de leur humanisme acceptable, anodin et bien séant. Ben oui. Voilà, le dernier piano, 1h50, le Colisée, une séance en VO au moins par jour pour ce film, pas vu. Allez, pause musicale, dans le film Les crevettes pailletées, on entend Heroes de David Bowie, mais pas la version de David Bowie, la version chantée par les crevettes pailletées.
Par les acteurs, oui.
Nous allons vous proposer...
Et c'est à la fin du film.
Tout à fait, nous allons vous proposer la version de David Bowie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Voilà, c'est parti, et je fais plaisir, si vous écoute, à... quelqu'un qui s'appelle Thierry Nouchi, qui était un grand fan de David Bowie.
I will make it.
Heroes, David Bowie. Ce n'est pas cette version qu'on entend dans La Revanche du Gré de Pailleté, mais c'est un titre que l'on entend quand même dans le film. Alors, petite précision, le dernier piano au Colisée a droit à 2 séances par jour et chaque fois en VO. Et pour ce qui est de Thierry de Mézières et Alban Turley, eh bien, les films qu'ils ont réalisés sont Rocco en 2016, un documentaire sur Rocco Siffredi, oui. Et le film avec Benjamin Millepied, ça s'appelait Relève, histoire d'une création. Voilà, tout est clair, tout est fait, tout est dit. Allez, hop, on embraye avec L'ombre des filles. À L'ombre des filles, c'est un film proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. C'est un film d'Étienne Comard. Étienne Comard, c'est un réalisateur français, scénariste et dialoguiste, producteur également, né en 65. Il avait réalisé en 2016 Django, le film sur Django Reinhardt, avec Reda Kateb et Cécile de France, mais il est aussi scénariste de films comme Des Hommes et des Dieux, Les Saveurs du Palais, Mon Roi, Gauguin Voyage à Tahiti, le titre exact du film. Le film, donc, À l'ombre des filles, 1h46, avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Afsia Herzi. Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté au tempérament difficile des détenus. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d'offrir à ses femmes un semblant de liberté. Olivier Delcroix dans Le Figaro, avec une mise en scène dépouillée, Étienne Comard orchestre son film comme une symphonie rugueuse, sans affêterie, a cappella. À l'ombre des filles, un film touchant, sensible, affûté, qui se confine dans le quotidien carcéral pour mieux illustrer cette métaphore de la grande évasion par le chant. François Forestier dans l'Obs, cinéma intimiste, cinéma sincère, porté par Alex Lutz, acteur étonnant. Barbara Théâtre de Journal du Dimanche, toujours très juste dans la complexité. Alex Lutz porte avec cette chronique sociétale, sensible mais sans surprise, face à une bande de filles au caractère très affirmé. Laurent Géante et Les Sept Jours, malgré une partition quelque peu mécanique, on sort bouleversé avec la conviction que seule la beauté peut égayer la grisaille de l'existence. Maroussia Dubreuil dans Le Monde, comme souvent dans la confrontation entre un professeur et un groupe en difficulté, des détenus, des classes en REP, etc. La vie des élèves, sous prétexte de ne pas être stigmatisée, est gommée et le groupe ne semble exister que pour agir sur la conscience du sachant qui, de fait, ne sait plus grand-chose. Gilles Kerdre-Ouest-France, au-delà de la qualité des acteurs, le film reste un peu trop sur le même ton uniforme. Thierry Chaise en première, à trop vouloir marteler le message qu'il a envie de faire passer, Comard manque en partie sa cible. À l'ombre des filles, 2 séances par jour au cinéma, les cinéastes. Donc, Luc, c'est un chanteur lyrique qui a accepté d'animer un atelier de chant dans une prison pour femmes. Peut-être, sans doute même, pour échapper à des problèmes personnels qu'on ne découvrira que vers la fin du film. Il va ainsi tenter de leur donner le goût du chant et surtout de former un groupe vocal malgré leurs différences de tempérament à ces jeunes femmes. Ces jeunes femmes, elles ne sont pas toutes jeunes d'ailleurs. Comme il y a quelques mois avec Le Triomphe, grosso modo, sur un thème voisin, hein, prison pour hommes prison pour hommes et théâtre pour Le Triomphe. Ici, c'est donc prison pour femmes et chant, un film qui parle à sa façon de résilience, de rédemption et même sur la fin, de travail sur le deuil. Alors, le schéma narratif est un peu toujours le même, hein. Un groupe rétif au début où les personnalités des détenus s'opposent entre elles, et puis ce groupe finit par se souder grâce à la bienveillance, à l'infinie patience de l'artiste enseignant. Donc aucune surprise du côté du déroulé du scénario dans ses grandes lignes. Voilà, le film vaut surtout donc par son interprétation. Alex Lutz est remarquable, comme à son habitude, plein d'humanité, cachant ses fêlures, et les actrices sont au diapason, si on peut dire, pour un film sur la musique. À noter notamment Michèle Moretti en logeuse de Luc, qui en quelques scènes fait une démonstration phénoménale de son talent. Elle a juste 2 petites scènes et c'est assez incroyable. La réalisation, eh bien, elle est sobre. On a choisi un format carré, hein. Étienne Comard choisit un format carré de filmer le plus souvent en gros plan les personnages, sans doute pour faire ressentir la notion d'enfermement. Alors, le film est beaucoup plus centré sur cet atelier de chant que sur les raisons pour lesquelles les détenus sont là, hein, et donc le film se concentre surtout sur la notion de solidarité, de tolérance, ou pas d'ailleurs, hein, d'épanouissement possible par cette activité de chant qui permet, sans mauvais jeu de mots, hein, de s'évader de l'univers carcéral, car sinon, on a un film sur les conditions de détention. Voilà, on a quand même un film sur les conditions de détention, hein, faut bien le dire. Un film humaniste avec de beaux personnages, des scènes intéressantes sur la technique du chant notamment et sur la mise en condition avant de chanter. Ça, c'est intéressant, c'est un côté un peu technique. On peut y aller sans trop de crainte, mais bon, non plus, c'est pas formidable pour arrêter toute activité et se précipiter au cinéaste pour aller voir le film. À l'ombre des filles, voilà. Alors, par contre, il y en a un où vous pouvez continuer à vous faire à vaquer à vos occupations. Celui dont je vais vous parler maintenant s'appelle Les Gagnants. Alors, Les Gagnants, c'est une catastrophe. Les Gagnants, 1h25, c'est un film de AZ et Laurent Junka. Alors, AZ, c'est l'acteur et réalisateur qui joue dans le film. Et Laurent Junka, c'est un réalisateur scénariste et c'est son premier long métrage. Je ne sais pas si ça ne sera pas le dernier, enfin, on ne sait pas. Donc, c'est avec Joe Star, AZ donc, et Alban Ivanov. Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème, les deux gagnants sont déboulés. Déboulés, oui, déboulés. Alors, là, il faut le dire, pas une seule critique dans la revue de presse. Ah. Et là, les critiques ont bien eu raison de ne pas y aller parce que moi, j'y suis allé. Alors, bon. Allez, bon, je vous en parle quand même un petit peu. Alors, sachez quand même que c'est le pire démarrage de la semaine en nombre de spectateurs par salle. Comme quoi, ils ont eu un petit peu de pif, les spectateurs. Alors, suite à une grosse gaffe sur les réseaux sociaux qui menace de mettre à mal sa réputation, un stand-upper célèbre qui s'appelle Tom Leroy, c'est joué star dans le film, il accepte donc d'accueillir dans sa somptueuse demeure marseillaise deux fans tirés au sort, invités à partager sa vie le temps d'une semaine en étant filmés pour les réseaux sociaux. Mais hélas, les deux, ce sont des cas. L'un est obsédé par le tuning de sa voiture et le fric, et l'autre par la flûte, oui, la flûte, oui, et la tarte tropézienne. Voilà. Alors, gros gaffeurs, débiles, vrais boulets, eh bien, ils vont gravement perturber la vie de Tom Leroy, mais aussi lui faire prendre conscience de son égocentrisme. Voilà. Un bon moment que je n'avais pas vu une comédie française aussi médiocre, et je dis médiocre, c'est même gentil, et Dieu sait si je vois des films. C'est mal filmé, c'est mal écrit, avec des acteurs qui sont en roue libre, mal dirigés, qui sauvent tout juste le film du néant absolu. On arrive à sourire deux ou trois fois au milieu d'un océan de gags et de situations pitoyables. On en arrive à se demander comment on peut réussir à monter un tel film. Alors peut-être uniquement sous les noms de Joe Star et Alban Ivanov, qui ont dû accepter de se commettre là-dedans pour un bon cachet, ou alors par amitié pour l'acteur-réalisateur AZ. Bref, aucun intérêt. Alors, c'était certes un petit peu prévisible, mais peut-être pas à ce point-là. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il y a un film qui s'appelle Les Secpas qui sort, qui permet d'être là aussi une date dans son genre. Et là, je ne pense pas que je ferai l'effort d'aller le voir. Mais reconnaissons quand même que ce type de film a toujours existé. Les plus anciens à l'écoute se souviendront peut-être des films de Philippe Clair dans les années 70, avec les Charlots, qui étaient eux aussi voilà. De purs navets. Hein, si vous ne les avez jamais vus, allez voir Les Bidons en folie ou des choses comme ça.
Oui, oui, je vois, hein. Oui.
Et c'est ça, voilà. Les Gagnants, donc, c'est au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Là, franchement, vous pouvez épargner de l'argent. N'allez pas voir ça. Toujours au Pâté Quinconce et au Méga CGR, je ne l'ai pas vu, mais c'est un documentaire qui s'appelle Le Stade. Le Stade, c'est un film sur le Stade toulousain, l'équipe de rugby fort célèbre. Et c'est un film réalisé par Eric Anzo et Mathieu Voller. Eric Anzo est un réalisateur-producteur, Mathieu Voller est un réalisateur-scénariste et monteur. Eric Anzo avait réalisé en 2014 un long métrage avec Virginie Loyer, Laurent Lambert Wilson et Laurent Lucas qui s'appelait Enragé. C'était pas si mal d'ailleurs. Et puis Mathieu Voller, lui, c'est son premier long métrage. Il avait auparavant réalisé des courts métrages. Alors Le Stade, ça dure 1h47. L'aventure humaine de l'équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré les adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdu dans l'arène pour décrocher leur 5e étoile de champion d'Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l'histoire. Qu'en pense la presse? Eh bien, le Figaro parle d'une plongée inédite dans un monde rude et fraternel, avec ses drames et ses délivrances. Ouest France parle d'une plongée passionnante, Télérama, sous la plume d'Étienne Labruni, construit chronologiquement et autour des causeries d'avant-match de l'entraîneur Hugo Mola. Ce film célèbre les rouges et noirs et s'adresse avant tout aux fans de ballon ovale. Alors ça, c'est vrai parce que quand on regarde les entrées premiers jours, il y a pas mal d'entrées en province. Je pense que c'est surtout dans le sud-ouest d'ailleurs. Et 500 entrées sur Paris. Ah. C'est vraiment un film, c'est étonnant. Alors, il a que deux séances par jour, mais il a deux copies sur Le Mans. Une au Méga CGR, une au Pâté Quinconce. Et bon, le rugby au Mans, ça existe, mais enfin,
c'est loin.
C'est à l'état de trace, hein, quand même. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas allé le voir. J'avais éventuellement la possibilité d'aller le voir, mais bon, je me suis un petit peu dégonflé parce que le film était un petit peu longué. 1h47. Oui. Bon, je tente de le voir là aussi à la télévision. Bien. Toute une nuit sans savoir, c'est un film documentaire, là encore, une fois de plus, de Payal Kapadia. C'est proposé par les cinéastes avec une séance par jour, sauf lundi. Ce film de Payal Kapadia, scénariste et réalisateur indien, c'est son premier long métrage. Auparavant, il avait réalisé un court métrage. Alors, on est en Inde, quelque part. Une étudiante en cinéma écrit des lettres à l'amoureux dont elle a été séparée. À sa voix se mêlent des images, fragments récoltés au gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations, qui racontent un monde assombri par des changements radicaux. Le film nous entraîne dans les peurs, les désirs, les souvenirs d'une jeunesse en révolte et prise de liberté. 1h39 pour le film. Elisabeth Franck Dumas dans Libération, ainsi toute une nuit sans savoir, mêlant habilement l'intime et le politique, le found footage, et le film rêvé des images de manifs et de répression devient-il une poignante lettre d'adieu à l'amour et l'espérance, à la jeunesse et l'innocence qui résonnent bien au-delà des frontières où ils se déroulent. Bruno De Ruisseau dans Les Inrecuptibles, le parti pris de Payal Kapadia, traduit le drame du présent qui ne change pas, un présent prisonnier du passé, qu'il soit hanté par un amour perdu, ou le conservatisme d'une société indienne qui asphyxie sa jeunesse. Vincent Tabouret dans la revue Positive, le spectateur se trouve alors plongé dans une brèche narrative entre fiction et réalité, hallucinante, vibrante de rage et de désespoir. Cet amalgame de révolte politique et de frustration amoureuse se noue dans une esthétique fantasmagorique singulière qui peut nous égarer ou nous subjuguer, mais qui ne nous laissera jamais indifférents. Qu'a-t-elle le marchand dans le télérama, à la fois distante et sensible, la caméra poétise un mouvement irrépressible de liberté dans une société encore soumise au caste. Thierry Chaise en première, le résultat, captivant dans ses premières minutes, finit cependant par laisser peu à peu à distance, comme trop gangréné par sa cérébralité pour tendre la main au spectateur. Sa radicalité ici tout à la fois se révèle ici tout à la fois sa plus grande force et sa plus dommageable faiblesse. Pas vu toute une vie sans savoir. C'est au cinéaste, une séance par jour, sauf lundi prochain.
Pas vu.
Pas vu non plus. Pause musicale, Patrick Juvet, où sont les femmes? Oui, parce que dans À l'ombre des filles, les filles, bon, il veut leur apprendre des chansons qui sont
populaires,
Beaux-Arts,
oui.
Des choses comme ça. Et bon, elles veulent aussi apprendre autre chose que des chansons classiques. Mmh. Et donc, il s'aide un petit peu. Et comme dans une boîte de nuit où il a passé une soirée, il a entendu cette chanson de Patrick Juvet, ça tombe bien. Où sont les femmes? Bien, elles sont justement dans le film. Et là, elles sont sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Please, please, please.
Patrick Juvet, Où sont les femmes ? C'est la version courte, hein, parce que la version pour les discothèques, elle dure pouf.
Oui, voilà. Sur les maxi 45 tours de l'époque.
Exactement. Vortex. Vortex est un film qui est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Et Vortex a droit à une ou deux séances par jour. C'est un film de Gaspard Noé, réalisateur, scénariste, acteur né en 63. Il a commencé par le court-métrage. On l'a connu en 91 avec un moyen-métrage, Carne, avec Philippe Naon. 98, Seul contre tous, avec Philippe Naon et Blandine Lenoir. 2002, un film, un choc absolu, irréversible, avec Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel. 2009, Enter the Void. 2015, Love. 2018, Climax, ou Climax, avec Sofia Boutella. 2020, Lux Eterna, avec Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dahl. Et 2020, Irréversible, inversion intégrale. Parce que Irréversible, c'était filmé de la fin vers le début. Et là, il a remonté dans l'autre sens. Mmh. C'était quand même très, très spécial. Hein. Si vous n'avez jamais vu Irréversible, c'est un des films qui m'a le plus marqué, moi, tellement c'est dur comme film. Vortex, c'est pas mal non plus dans le genre. Vortex, ça dure 2h22. C'est avec Françoise Lebrun, Dario Argento et Alex Lutz. Je le cite parce que je vais en dire beaucoup de bien de ces trois acteurs. Le synopsis, eh bien, c'est très simple. La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. Ça, c'est une citation de Gaspard Noé. On vous en dit pas plus. Le Parisien, du plus trivial, naît une forme de grandiose dans une mise en scène épurée et brillantissime qui partage souvent l'écran en deux. Elle d'un côté, lui de l'autre. Oui, parce qu'il s'agit de deux personnages, surtout. Ouest France, une expérience de cinéma jusqu'au boutiste et déchirante. Camille Brun, cinématiseur, un film terrassant sur la vieillesse et la fin de vie. Alexandre Janoviak, écran large, avec un dispositif minimaliste, inhabituel et une lenteur troublante. Gaspard Noé filme la tragédie de la vieillesse avec une sobriété bouleversante dans Vortex, captant la dégénérescence d'un couple entre solitude, crainte, mesquinerie, désolation de vivre et attente désespérée de la mort. Déprimant, conclut Alexandre Janoviak. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, une puissance visuelle, narrative et émotionnelle sidérante. Guillemette Odissino, c'est la poudre de Télérama à Vortex, sorte de testament avant l'heure, raconte dans un vérisme cruel à quel point le temps reste la drogue la plus toxique et son effet irréversible. Libération, pudique, bordélique, agaçant, fascinant, Vortex se range dans cette catégorie fantôme des films qu'on n'aime jamais complètement, mais à qui l'on sacrifie volontiers un coin de neurone qu'on ne verra peut-être pas, qu'on ne rangera sur aucune étagère, avec lesquels on se bat constamment, mais qui sera toujours présent, morcelé, désordonné, à portée de mémoire. Frédéric Foubert dans Première, Noé, Gaspard Noé, filme ses différentes évaporations en conférant une puissance émotionnelle exceptionnelle à ses expérimentations sur le split screen. J'explique après ce que c'est, envisageant la vie de couple comme la coexistence de deux solitudes, parfois complices, mais évoluant surtout en parallèle, chacun de son côté de l'écran. Nicolas Chalère dans L'Obs, il ne manque pas d'idées fortes de mise en scène, le diaporama final est dévastateur, mais pourquoi étirer sur 2h20 une expérience de court-métrage plombée par des considérations d'étudiants ? Et enfin, le contre de Télérama, c'est Louis Guichard, le principal geste artistique dans Vortex consiste donc à diviser sans cesse l'écran en deux. Voilà bien la façon la plus démonstrative de signifier que la vieille dame et son mari sont coupés l'un de l'autre, bien que partageant jusqu'au bout leur déchéance. Oui, alors, Vortex, c'est un film qui décrit, sans concession, la lente et inexorable agonie d'un couple de personnes âgées, sous le regard impuissant et, malgré tout, aimant de leur grand-fils. C'est un film qui mérite parfaitement son label Art et Essai, tant sur la forme que sur le fond. Alors, sur la forme, donc, le film utilise le dispositif du split screen, c'est quoi le dispositif du split screen? C'est-à-dire qu'on a un l'écran séparé, qui est coupé en deux, oui, qui permet de montrer simultanément deux actions, et ici surtout deux personnages en même temps. Alors cela peut paraître a priori dérangeant, mais cela ne l'est pas, et ça constitue même, cela contribue même, pardon, à montrer cette sensation d'isolement de chaque personnage, les uns par rapport aux autres, à travers de très longs plans séquences. Sur le fond, le film est terrible, terrible, bouleversant, choquant. Il ne cache rien de la lente dégradation des choses et notamment de l'évolution de la maladie d'Alzheimer dont souffre la femme du couple. En effet, le film évoque la fin de vie d'un vieux couple. Elle, c'est une ancienne psychiatre. Lui, c'est un écrivain, cinéaste, et dans un appartement parisien, sous le regard de leur grand-fils qui vient régulièrement leur rendre visite et qui est témoin de la situation qui se dégrade, qui se dégrade, qui se dégrade. C'est un grand film sur la vieillesse, qui met le doigt dans la plaie, qui montre au spectateur ce qui peut-être l'attend, la déchéance, la dépendance, l'inéluctable fin. C'est puissant, c'est bouleversant, c'est très âpre, c'est surtout prodigieusement interprété par un trio d'acteurs qui joue de façon exceptionnelle au point qu'on a l'impression de vivre un documentaire sur des situations finalement très banales qui arrivent à beaucoup de personnes âgées, à leurs enfants adultes et sur qui pèse ce poids de la déchéance de leurs parents. Alors ces trois acteurs, eh bien il y a, je l'ai dit, cinéaste Dario Argento, Françoise Lebrun, une actrice qu'on avait vue il y a très très longtemps dans La Maman et la Putain, et Alex Lutz. Alex Lutz, c'est définitivement l'un des 4-5 meilleurs acteurs français actuellement. Hein. Ceux qui ont vu des films comme Guy, par exemple, se souviennent de la performance dont est capable ce gars, à la fois dans le comique, dans le tragique, et là, c'est dans le tragique. C'est un grand film, hyper réaliste. C'est un film difficile, hein, vraiment un film malaisant. C'est une épreuve pour le spectateur, parce que le film est déchirant. En plus, il est très long, 2h22, et il y a beaucoup de séquences qui auraient pu être coupées sans problème. Hein, mais bon, c'est à ne surtout pas voir si on est un tant soit peu déprimé, tellement le film est vraiment éprouvant. Mais c'est vraiment un film absolument remarquable. Ça s'appelle Vortex, et c'est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. Toujours au cinéaste, Akira. Akira, c'est un film italien de Jonas Carpignano. Ce film avait déjà été proposé il y a quelque temps aux cinéastes en avant-première dans le cadre de Tutti al Cinema. Et là, donc, eh bien, Akira, 2h01 pour ce film, proposé donc par les cinéastes, avec une séance par jour, sauf lundi. Akira, c'est Chiara, 16 ans, qui vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener l'enquête pour le retrouver. Mais plus elle s'approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine. Revue de presse élogieuse avec Françoise Delbecq dans Elle, l'actrice Swami Rotolo, dans sa première apparition, crève l'écran par son charisme, un film coup de poing. Céline Roudaine-Lacroix, entre documentaire et fiction, un film tendu et âpre sur la quête existentielle et morale d'une jeune fille pour trouver le chemin de sa liberté. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, voilà un film précieux, hanté par de puissantes visions, déchiré par des moments bouleversants, ménageant des scènes de suspense géniales. Olivier de Bruyne dans Les Échos, le metteur en scène italien Jonas Carpignano dresse le portrait d'une jeune fille qui découvre les réalités mafieuses de sa famille. Un film inspiré et émouvant sous l'influence de la mafia ordinaire qui s'impose comme l'une des plus étonnantes réussites du moment. Yannick Velli dans Paris Match, caméra au point, dans un style fiévreux proche du documentaire, le cinéaste italien épouse le regard buté de sa jeune héroïne qui entre brutalement dans l'âge adulte. Frédéric Strauss dans Télérama, à travers Chiara et ses aspirations pures dans un monde corrompu dont elle est le fruit, le film offre un éclairage unique sur la force à double tranchant des liens du sang. L'Obs, Gabriel Harper, Jonas Carpignano signe un portrait lucide et asphyxié de la mafia italienne. Ça donne très envie de voir ce film. J'aurais bien envie d'aller le voir, mais je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Pour Akira, proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec une séance par jour et pas de séance, par contre, mardi. J'ai dit lundi, c'est mardi. Sous l'aile des anges, on reste au cinéaste. Sous l'aile des anges, une séance par jour au cinéaste pour ce film, qui est un biopic de Haji Edwards, son premier long métrage à Haji Edwards, je crois bien. Et on est dans l'Indiana en 1817, une nation américaine à peine âgée de 40 ans qui se relève difficilement de sa seconde guerre d'indépendance. Des hommes et des femmes qui, pour survivre, mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel est le monde que découvre Abraham Lincoln, oui, Abraham Lincoln, le futur président à sa naissance. Sur une période de 3 ans, le film retrace l'enfance du futur président des États-Unis, sa famille, les difficultés qu'il a traversées et qui l'ont construit, la tragédie qui l'a marqué à jamais et les deux femmes qui l'aideront à accomplir son destin. Alors, petite précision, le film date de 2014, donc il n'est distribué qu'aujourd'hui sur les écrans et donc au Mans. François Forestier dans l'Obs, poème expressionniste, ce film est le triomphe de l'image et du cinéma pur, pour les yeux un régal. Marie Sauvion dans Télérama, ne pas s'arrêter à la mièvrerie du titre. Sous l'aile des anges, fait le récit âpre et beau d'une enfance américaine au début du XXe siècle, un peu comme si Mark Twain rencontrait Terrence Malick. Alors Terrence Malick, la référence est fréquente sous la plume des critiques. Il faut savoir aussi que Terrence Malick est le producteur du film et Haji Edwards, je crois, était ou directeur de la photo ou monteur des films de Terrence Malick. Olivier Delcroix, Le Figaro, quête initiatique, long poème filmique cherchant à susciter chez le spectateur l'expérience sensorielle la plus immersive. Sous l'aile des anges s'avère une tentative cinématographique sincère et convaincante dont on ressort troublé. Alexis Campion, au Journal du Dimanche. La photographie noir et blanc est belle, ultra soignée, mais les mouvements brusques de caméra et les contre-plongées systématiques sont abusés et finissent par donner l'impression d'une pastorale un peu vaine, d'un roman photo contre-productif. Alors l'expression « les contre-plongées systématiques sont abusées », c'est un langage de Jones, ça, hein ? Ah oui, je suis désolé, c'est pas vraiment français. Alors, Véronique Coappé, Le Monde, la dureté de l'existence dans cette Amérique naissante, la lutte contre la maladie de la nature, la tragédie de la perte maternelle, l'arrivée d'une nouvelle épouse dans la vie de son père nous sont rapportés sur une période de 3 ans et un long récit naturaliste, quasi biblique, dont la beauté cinématographique fascine au point de désincarner les personnages et de nous tenir à distance. Voilà. Sous l'aile des anges, 1h34, Les cinéastes. Dernier film cette semaine à l'affiche sur les écrans Manceau. Un dessin animé pour les enfants, Max et Amy, Mission Pâques, de Ute von Munchau-Pohl, réalisatrice, scénariste, monteuse allemande. Elle a son actif, par exemple, en 2021, Les Elfkins, opération pâtissière. 2017, L'école des lapins, qui était dont le Max et Amy semble être la suite. 2015, La course du siècle. 2012, Petit corbeau. Bref, beaucoup de dessins animés, enfin exclusivement des dessins animés. De quoi est-il question dans ce dessin animé de 1h16, proposé par le Méga CGR, le Pâté Quinconce et le Colisée? Eh bien, Pâques approche à grands pas, oui, je confirme. Max, Amy et tous les lapins s'activent pour le grand jour. Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Amy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins. Voilà, c'est pour les petits-enfants, hein. Sylvestre Picard en première, c'est mignon, inoffensif, animé, plutôt joliment. Que dire d'autre ? Voilà, ben, n'a pas été voir. Hein.
Ah ben non.
Allez, pause musicale dans le film Vortex. On entend au début intégralement cette chanson de Françoise Hardy, Mon ami la rose. Et bien maintenant, vous allez l'entendre sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Françoise Hardy, Mon ami la rose.
De choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Mon ami la rose, Françoise Hardy, on entend chanter par Françoise Hardy elle-même dans un... On n'appelait pas ça un clip à l'époque, tourné dans les années 60.
Oui.
Cette chanson, au tout début du film Vortex. Voilà. Les avant-premières, eh bien, on commence par ce soir. Si vous nous écoutez en direct, à 19h45, le Méga CGR propose un dessin animé Détective Conan, la fiancée de Shibuya. Ce film sortira uniquement en juin. Et donc, c'est un dessin animé, toujours dans le genre manga. Hein. C'est à 19h45 ce soir au Méga CGR. Toujours si vous nous écoutez en direct ce soir au cinéaste, avant-première du film Le Monde Après Nous. Mais là, c'est un film en présence du réalisateur Louda Bensala Casanas. Vendredi 15 avril, 20h, pour aller voir ce film qui sortira mercredi prochain. Tiens, tant qu'on y est, sachez qu'au cinéaste, mardi, à une soirée importante, à 20h, Tonton Manu, un film sur Manu Dibango, avec une soirée hommage, avec en présence de la jazzwoman Rhoda Scott. C'est quand même pas rien. Hein. Bon, Rhoda Scott, c'est mardi 20h. Je pense qu'il est prudent de réserver, peut-être qu'il y a déjà même plus de place, si ça se trouve.
C'est possible.
C'est possible. Alors, les autres avant-premières... lundi soir au Méga CGR, Un talent en or massif, un film d'aventure avec Nicolas Cage à 20h. Et le lendemain, toujours au Méga CGR, à 19h45 et à 20h30 au Colisée, Le secret de la cité perdue. C'est un film avec Sandra Bullock, Channing Tatum, une comédie d'aventure, voilà. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine, je voulais annoncer déjà Les Secpa. J'ai très peur et donc je ne pense pas que j'irai voir Les Secpa, ou alors il faudrait que je sois vraiment très désœuvré. Donc, Les Secrets de la Cité Perdue, mais on peut le voir donc dès mardi soir à 19h45 au Méga et 20h30 au Colisée. C'est en 20h30 au Colisée, c'est que de la version française, malgré tout. Autre film la semaine prochaine, Ogre, de Arnaud Malherbe. Je pense que c'est un film un peu fantastique. Un talent en or massif, film d'aventure, comédie là aussi. Je pense qu'il y aura aussi Les 100 dents de Pascal Rabaté, avec Yolande Moreau, Gustave Kernverne, François Morel. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura Murina, parce que ça s'est annoncé au cinéaste, Murina, de Antonietta Alamat Kuzijanovic. Le Monde Après Nous, donc, je vous ai annoncé le film avec l'avant-première dès ce soir à 20h au cinéaste. I Comet, je pense qu'on doit dire I Comet ou I Comet, je ne sais pas. Un film de Pascal Tagnati. Et qui, à part nous, attention, documentaire 3h40. Hein.
Oula.
Celui-là, exclu. Voilà. Bon, pour cette semaine... je sais que Pierre n'est pas hyper chaud pour la revanche des crevettes pailletées.
J'ai vu que celui-là, donc la revanche des crevettes pailletées, mais non, il va faire très beau ce week-end de Pâques, ce long week-end, donc allez vous promener.
Voilà, alors moi...
Je suis tenté par Akara quand même.
Oui, peut-être bien. Oui. À l'ombre des filles, c'est pas si mal que ça. Et puis Vortex, mais attention, Vortex, avec toutes les précautions d'usage, si vous n'êtes pas bien, il ne faut pas aller voir Vortex. Bien, allez, hop, nous on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et bien d'ici là, bonne semaine, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Le générique.